pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Bon, donc le sujet ce soir, c'est la situation aux États-Unis. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Larry, je suis bien américain, mais de moins en moins authentique, puisque ça fait 46 ans, bientôt, que je vis en Europe, surtout en France. Mais quand même, je m'autorise à parler du pays où je suis né et où j'ai grandi. Donc il y a des tas de questions. J'ai fait circuler un texte que j'ai écrit, qui a été publié dans Temps Critique. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. En tout cas, je ne veux pas parler trop longtemps, donc je ne vais pas résumer le texte non plus. Mais je vais dire certaines choses que j'ai abordées dans le texte. Le texte, j'ai bouclé il y a au moins 3 mois, donc il y a des choses intervenues depuis. Il y a des points généraux que je voudrais aborder ce soir. Je pense que ce qui se passe aux États-Unis est d'une assez grande importance pour les États-Unis, bien sûr, mais pour le reste du monde aussi. Une des premières questions qui me viennent à l'esprit, c'est est-ce que ce qui se passe est à considérer comme quelque chose de rationnel du point de vue du capitalisme ou d'irrationnel? Et vous allez deviner sans doute que pour moi la réponse n'est pas simple à ça. Il y a du rationnel et de l'irrationnel là-dedans. Il y a un fonds économique qui est, comme c'est en général le cas, qui expliquerait pourquoi on en est arrivé là. Mais mon point de vue à moi, c'est que ce qu'il y a derrière, c'est un phénomène de caractère avant tout politique et, ma foi, je dirais culturel, même de civilisation, si on veut. Je ne verse pas dans l'explication, disons, habituelle où on dit le capitalisme américain est en crise, a tout perdu. Je pense que l'hégémonie américaine n'est plus ce qu'elle était par rapport à autrefois, et ça c'est facile à démontrer. Mais par d'autre côté, le capital américain reste très très fort, et il y a des études qui montrent que dans le reste du monde, il garde sa prééminence, y compris en Chine, y compris dans les entreprises étatiques en Chine. Les capitalistes américains sont partout. Moi, je m'attendais à partir des années 70, à ce que les Japonais d'abord, les Allemands, etc., prennent le dessus. Ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, c'est les Américains qui, ou les capitalistes américains, j'entends, qui dominent très largement encore. Par contre, les États-Unis comme pays, comme État-nation, qui avaient leur hégémonie, qui pouvaient dominer le monde, ça, c'est là où il y a un problème. Les deux ne sont pas identiques. Et je reconnais que c'est difficile à distinguer ces deux niveaux. Mais c'est justement une sorte de contradiction qu'on doit avoir en tête en parlant de la situation. Ils sont partout et en même temps, ils ne dominent plus le monde. Voilà. Pour moi, le phénomène Trump, c'est un petit peu l'expression de cette reconnaissance du fait que, en tant que pays, en tant qu'État, les États-Unis ne dominent plus le monde. Ils le savent et ils commencent à avoir recours à des méthodes de plus en plus grossières pour essayer de maintenir ou d'affirmer leur puissance. C'est un phénomène politique, culturel, idéologique. L'hégémonie qu'on avait connue après la Deuxième Guerre mondiale avait, comment dirais-je, il y avait une composante de persuasion. Nous, on pouvait prendre ça pour de la connerie, en disant que les Européens, par exemple, étaient bêtes de marcher là-dedans. Il n'empêche que ça fonctionnait. On peut avoir toutes les critiques qu'on veut. Ils finissaient par être fascinés, par exemple, par la productivité à l'américaine, qui a été exportée dans le monde entier. Par le mode de vie américain, ils ont fini par copier beaucoup de choses qui n'ont pas été, contrairement à ce qu'on pense, n'ont pas été imposées au bout des baïonnettes, mais ont été adoptées plus ou moins volontairement dans le reste du monde. Personne n'a obligé les gens à porter des jeans et des baskets dans le reste du monde. C'était un modèle qui a séduit en partie aussi. Il y a eu un mélange de force et de séduction. Aujourd'hui, cet aspect-là, la séduction, a quasiment disparu. Et quelqu'un comme Trump fonctionne entièrement à la menace et à l'intimidation. Donc voilà, on est dans un nouveau cas de figure. Et à l'intérieur du pays, c'est en grande partie comme ça aussi. Voilà, on a une situation qui a changé assez radicalement. Ce qui va dans l'autre sens, c'est que les résultats qu'il obtient sont assez médiocres, ce qui est plutôt bon signe, mais c'est en partie parce que il y a une certaine bêtise dans leur façon, lui et son équipe, dans leur façon de procéder. Pour être sûr d'avoir une équipe soudée, chose qu'il a réussi brillamment, pas pendant son premier mandat, où il était inexpérimenté, mais là, il a réussi à constituer une équipe vraiment de choc, où personne n'ose le contredire. Il a réussi à intimider le Parti républicain. Aux États-Unis, les partis politiques sont totalement indisciplinés traditionnellement. Les élus sont faciles à acheter. Et ça veut dire que les consignes d'en haut ne sont pas respectées. Là, on a un président qui arrive à imposer sa volonté. C'est tout à fait exceptionnel dans l'histoire américaine. Et donc il y a une unité de l'appareil et du Parti républicain dans les deux chambres du Congrès. Mais le prix à payer, c'est qu'il est entouré de gens assez médiocres. Ça donne des cafouillages et dans certains cas, qui pourraient être dangereux, comme pour des actions militaires où ils partagent ça sur des réseaux ou des systèmes de communication où des gens extérieurs à l'action sont mis dans la boucle. C'est fait pour les attaques contre les Houthis, par exemple. Donc, c'est à la fois rationnel et irrationnel. Ils sont calculateurs et en même temps, ils font de très mauvais calculs. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez étrange et difficile à cerner. Je voudrais aborder, je ne veux pas garder la parole trop longtemps, mais je voudrais, disons, m'inscrire en faux contre des idées qui circulent beaucoup. Il a été dit tout de suite que c'est un régime oligarchique. On a dit ça. Je ne souscris pas à cette idée pour la simple raison que l'idée d'un capitalisme américain, d'une politique américaine où la classe capitaliste aurait été écartée du pouvoir par le passé est ridicule, ce n'est pas à prendre au sérieux. Elle n'a jamais été écartée du pouvoir, le moins du monde. Et les grandes figures qu'on a vues à l'investiture de Trump, qui étaient là, pour la plupart, c'était ceux qui étaient venus à la dernière heure, parce que ils avaient été pour les démocrates, mais ils s'étaient rendus compte que valait mieux changer de camp. Ils avaient donné des sous au dernier moment à une sorte de fonds d'investiture et non pas pour faire élire le candidat, comme Jeff Bezos, etc. Eux ont peu d'influence sur le président. Ce qui est vrai, c'est que dans le gouvernement même, le cabinet, il a nommé une quantité invraisemblable de milliardaires. Ça s'est fait dans le passé avant, mais là, il a battu tous les records. Mais ça donne l'impression plutôt d'une sorte de kleptocratie que l'idée que, enfin, c'est le capital qui domine le gouvernement américain. Ce n'est pas sérieux comme critique. Le capital a toujours dominé le gouvernement américain. Là, c'est l'idée que c'est des potes entre eux qui se partagent le gâteau. Ça donne l'impression plutôt d'une dégénérescence que d'un changement d'influence dans les classes sociales, entre les classes sociales. C'est pas... Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que est-ce que les changements sont grands ou moyens, petits? Dans les interprétations à gauche, il y a les maximalistes et les minimalistes, en parlant de Trump. Il y en a qui essaient de minimiser, d'autres qui disent que c'est catastrophique, etc. Moi, je ne voudrais pas minimiser. S'ils n'ont pas été plus loin, je crois que c'est en partie leur propre incompétence qui les freine. Il y a des obstacles réels, pratiques. Ils continueront à aller où ils pensent pouvoir aller. Là où ils vont se planter, à mon avis, c'est que leur carte, leur atout maître, a été jusqu'ici la question de l'immigration clandestine. Apparemment, je me trompe peut-être, mais apparemment, ils sont en train de gaspiller même cet atout-là. Pourquoi ? Les gens ont vu, c'était avant l'élection de Trump, ils ont vu des images de masses de gens qui se dirigeaient vers la frontière américaine et des masses de gens qui arrivaient. Ça donnait l'impression que les services sociaux du pays allaient être débordés. Et dans certains endroits, c'était le cas. Il y a eu des réactions xénophobes dans certains endroits, mais pas xénophobes ailleurs. C'était juste que vous prenez des villes comme Chicago, où les gens étaient inscrits pour un logement social depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. Et tu as des gens qui arrivent, etc. Et on dit, hop, vite, il faut faire quelque chose, etc. Localement, les gens, ils disent, ils pouvaient être eux-mêmes d'origine latino-américaine. Ils disent, merde, etc. Moi qui suis sur la liste d'attente, etc. Il y a eu des réactions et qui expliquent pourquoi chez les Noirs et les Latino-Américains, ou les Hispaniques, comme on dit aux États-Unis, il y en a qui ont voté pour Trump en pensant qu'il fallait faire quelque chose, non pas par racisme, non pas comme on dit dans un journal comme Le Monde, c'est le refus de l'altérité, ou, etc. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est que les gens qui disent que c'est un phénomène qui doit être endigué ou maîtrisé mieux qu'aujourd'hui, etc. Il y a des comtés le long de la frontière mexicaine où l'immense majorité de la population est d'origine mexicaine, par exemple. Peut-être depuis deux siècles, mais ils sont fiers de l'être en plus. Ce n'est pas le racisme qui les motive, c'est que les places en crèche sont limitées. Être soigné à l'hôpital, ça devient compliqué, etc. Si on double la population en l'espace d'un an, les gens disent non, c'est pas possible, ils ne vont pas construire deux hôpitaux nouveaux. Voilà, donc il y a des réactions comme ça. Là, on est dans quelque chose de rationnel et non pas irrationnel. On peut dire que c'est dégueulasse, que l'État devrait faire plus, etc. Tout ça, on sait comment ça marche. Mais là, on n'est pas face à des problèmes de haine irrationnelle, mais c'est autre chose. D'accord ? Donc, Trump a pu arriver au pouvoir en partie grâce à des inquiétudes de ce type-là. Le vent est en train de tourner. Dans un sondage même fait par Fox News, qui est de droite pure et dure, même la majorité de ceux qui votent républicains estiment maintenant que dans l'ensemble, l'immigration a un effet bénéfique sur le pays. Vous voyez que il est en train de perdre son argument majeur. Qu'est-ce qui s'est passé ? En réalité, l'afflux d'immigrés à la frontière s'est tari. En partie à cause de... Biden avait déjà fait en sorte que les gens cessent de venir aussi nombreux. La répression avait commencé. Mais pour d'autres raisons, il y a moins d'immigrés. Les prévisions sont plutôt pour une immigration négative. La migration nette sera négative cette année et pour les 2-3 ans à venir. Vu que la natalité est en baisse aux États-Unis, cette question de l'immigration prend un autre caractère complètement. Il n'y aura plus assez d'immigrés aux États-Unis bientôt. Ça, c'est la réalité pour le démographe, mettons. Il n'y a plus assez d'immigrés. Alors, comment tu fais quand tu as promis qu'il y aura X expulsions par an. Comment tu le fais? Il n'y a plus d'arrivée à la frontière mexicaine. Comment tu fais? Eh bien, tu envoies tes sbires partout sur le territoire pour faire des razzias, des descentes, n'importe où, où on peut trouver des gens qui ressemblent à des clandestins. Où est-ce que tu le fais? Eh bien, devant l'équivalent de Monsieur Bricolage, il y a des gens qui attendent devant, ils voient les gens sortir avec des tas de trucs, des parpaings, des choses comme ça. Et il y a des types qui parlent peu, ou pas du tout l'anglais, mais qui leur disent que moi je vous montre ça en deux temps, trois mouvements, etc. Et je travaille pour très peu cher, etc. Ils se font embaucher sur le parking même. Hein. Ben, tu fais des arrestations sur le parking. Donc, au vu et au su de tout le monde. Dans les champs où les gens sont en train de cueillir les fraises, tu arrêtes les gens. N'importe où, ils sont en train de faire ça. Donc, devant la population immigrée et non immigrée du pays. Et même les gens les plus indifférents au sort des immigrés commencent à se dire « Attendez, je croyais qu'ils allaient arrêter des truands, des violeurs, des cueilleurs de fraises. Ils se rendent compte que toute une partie de l'économie fonctionne avec... ils savent que ça fonctionne avec des immigrés, mais ils se rendent compte que ça fonctionne avec des immigrés qui n'ont pas leurs papiers en règle. Alors, Trump a dû avouer que, oui, pour des raisons qu'on ignore, ils n'ont pas leurs papiers en règle, oui, il faudrait peut-être les laisser tranquilles. Il y a eu un coup de fil de quelqu'un, des agriculteurs, pour dire « foutez-nous la paix », etc. Les fraises pourrissent, c'est une semaine comme ça, et on a perdu la récolte. Voilà, ils soufflent le chaud et le froid, ils ne savent pas très bien comment maintenir leur quota d'expulsion. En fait, Obama avait expulsé beaucoup plus, qui était démocrate, avait expulsé beaucoup plus de clandestins que Trump, même pendant son premier mandat. Ils sont obsédés par cette idée, merde, les démocrates ont fait mieux que nous. Et ils n'y arrivent pas. Et ils sont en train d'écœurer une partie de la population, y compris la population qui a voté pour lui. Donc, voilà, on a des contradictions comme ça. Évidemment, ceux qui croient à l'intelligence artificielle disent que bientôt, il y aura besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre aux États-Unis. Mais ça, c'est demain. Aujourd'hui, et pour un agriculteur, lui, il dit, moi, je ne m'intéresse pas au futurisme, je m'intéresse à la récolte cette année. Et... Donc voilà, on est face à une situation comme ça. Donc il y a beaucoup de démonstrations de force de la part de Trump, et tout se fait dans l'ici et maintenant. On est dans l'actualité. Pour l'intervention de la garde nationale à Los Angeles, c'était fait pour ça, c'était de l'actualité, c'était pour détourner l'attention d'autres échecs, etc. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure à table, je parlais de... Je n'ai pas pu m'empêcher de le dire, je vais le répéter maintenant. Ça m'a beaucoup amusé parce que j'ai regardé le reportage de Fox News. Eux, ils disent « Oh là 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 là, la deuxième ville du pays est à feu et à sang, etc. » Ils ont montré les voitures qui brûlaient. Les gens qui agitent des drapeaux étrangers, c'est comme une invasion étrangère de notre pays, etc. faut envoyer la garde nationale. C'est comme une insurrection étrangère. À ma connaissance, c'est 4 voitures qui ont brûlé, peut-être 5. Hein. Alors, j'ai dit, vous voyez, un 31 décembre en France, tous les ans, etc. Racontez ça au CRS français, qu'il y a eu 4 ou 5 voitures qui ont brûlé dans une ville de plusieurs millions d'habitants. Au moment où ils ont fait intervenir la garde nationale, les journalistes indépendants ont compté quelque chose comme 200 manifestants dans la ville. Hein. 200. Dont la plupart non violents. Et un journal français qui s'appelle, pour ne pas le nommer, Lundi Matin, n'a pas repris le même ton, mais a donné l'impression qu'il se passait un mouvement, pas insurrectionnel, mais disons un mouvement très important, où des gens comme nous ont pu être, bien reçu par la population. On a balancé des projectiles sur les flics, etc. Dans les deux cas, c'était un petit mouvement. Ce que ni les uns ni les autres n'ont osé dire, c'est que les manifestants ont aussi brandi le drapeau américain. Et c'est typique des États-Unis, et ça, je me permets de le dire, que les mouvements contestataires aux États-Unis mettent souvent en avant leur patriotisme. Surtout que c'est un vieux truc de dire que les immigrés aux États-Unis ne sont pas de vrais Américains. Et depuis le milieu du 19e siècle, depuis les Irlandais qui fuyaient la famine dans les années 1840, une réaction normale, typique, c'est de dire, si nous sommes Américains, ils brandissent le drapeau américain, dire, c'est notre pays, nous sommes fiers d'être Américains. Et sous-entendu, nous comptons être traités avec la même dignité que tous les autres Américains. Donc c'est pour ça que tu brandis le drapeau américain. Et moi j'ai vu des images de jeunes, des filles qui devaient avoir 17 ans, en jean, débardeur, cheveux longs, se faire menotter avec le sourire aux lèvres, regardant les flics un peu pour dire « Vous faites ce que vous voulez, mais nous, on est chez nous ici. » Et voilà, on a le droit pour nous. Voilà, ça c'est le... Pour moi, ça c'est plus typique du mouvement que les 4 voitures qui ont brûlé, etc. Donc ça c'est... Qui, pour moi, c'est légitime de brûler les voitures, c'est pas le problème. C'est que voilà, c'est une situation de. Il y a eu un autre incident dans une autre ville de Californie du Sud où on a appris que les agents de cet organisme, ICE, ICE, de l'immigration, le contrôle des frontières, étaient descendus dans un hôtel. Une foule a entouré l'hôtel, etc. Et au bout d'un moment, le maire est intervenu pour dire au gars que c'est sympa, mais il faudrait que vous partiez ailleurs. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, etc. Donc, il y a des pressions comme ça qui se font. Donc, voilà, ça c'est la situation. Je voudrais dire un dernier mot et puis je vous laisse. C'est que Trump a fait un défilé, en partie parce qu'il avait vu le 14 juillet à Paris. Il était impressionné de voir les chars d'assaut descendre les Champs-Élysées et dit il me faut ça à Washington. Il a fait un défilé pour fêter l'armée américaine et pour ça coïncide avec son anniversaire à lui. Il a fait ça le 14 juin et les anti-Trump ont organisé des rassemblements dans le reste du pays, pas à Washington, mais à quelques encablures de Washington et partout ailleurs dans le reste du pays. Moi, je pensais que c'était organisé par le Parti démocrate, j'ai eu tort. C'était des groupes, pas anti-Parti démocrate, mais des groupes, disons, contestataires, pas très radicaux, mais... Et le Parti démocrate n'y a pas participé. Ou quelques membres, mais le cœur n'y était pas. Donc, c'était à ma connaissance la journée de mobilisation, de manifestation la plus importante de l'histoire américaine. Entre 2 et 3 % de la population y a participé. C'est pas rien, hein. Donc, j'ai vu une liste partielle des communes concernées par les manifestations. J'en connaissais pas la moitié. Très souvent de très petites communes. Donc ça avait un caractère, bon, pas on va tous à Chicago, on va tous à New York. Les gens manifestaient chez eux. Et avec des pancartes imaginatives, pas des slogans donnés par une organisation nationale, des choses sympas, etc. Bon, quelle suite ça donnera? Ça peut être le genre de truc, c'est une journée et puis ça retombe comme un soufflet. Il y a toujours le risque. Hein, mais le défilé de Trump a eu peu de monde. Les journalistes ont avoué que la fête nationale du 4 juillet à Washington, où les gens font des barbecues, attire habituellement plus de monde que son défilé. Donc c'était vraiment assez, assez pathétique. Et à côté de ça, il y avait la plus grosse mobilisation. Donc vous voyez qu'il y a des... Et ils ont baptisé ça « No King's Day », pas de roi. On ne veut pas de... Et c'est un rappel de la raison pour laquelle les Américains ont fait leur déclaration d'indépendance par rapport à l'Angleterre. On ne veut pas de roi, on veut notre république, etc. Donc, voilà, ça c'est... certains des facteurs qui me viennent à l'esprit. Il y a d'autres choses dont on pourrait parler, mais ça c'est... Ah oui, un dernier point que je voulais dire, que juste qu'on mettre en garde contre le... Les gens comme nous, on a toujours dit que de toute façon, la démocratie bourgeoise, on n'y a jamais cru. Hein. Là, on a le cas d'un pays où on ne sait pas si elle va subsister véritablement ou si ce sera... Déjà, je pense que d'un certain point de vue, les États-Unis ne méritaient pas tout à fait le qualificatif de démocratique, mais même par rapport à l'Europe, mais c'est pas impossible que ça le devienne encore moins peu à peu. Hein. Donc il faut avoir ça en tête. C'est pas du tout anodin ce qui se passe aux États-Unis. Hein. On disait tous, évidemment, de toute façon, tous les gouvernements sont au service du capital. Certes, mais il faut voir dans quel sens. Moi, je pense que ce que fait Trump et compagnie, on ne peut pas l'expliquer comme, avant tout, comme quelque chose qui arrange le capital. Si moi, j'étais capitaliste, je ne serais pas content du gouvernement de Trump.
Tu n'es pas capitaliste, tu n'es pas content non plus.
Comment ?
Tu n'es pas capitaliste et tu n'es pas content non plus.
En plus, mais de quelque secteur que ce soit, je ne vois pas en quoi le lapin qu'il a sorti de son chapeau, c'était un vieux truc qui remonte aux années 90, en gros, c'est on va baisser les impôts, en gros. encore une fois, et qui peut être contre quand tu es riche, sauf que c'est un truc, c'est une sorte de slogan fatigué, éculé, du Parti républicain, alors qu'ils sont face à cette idée qu'on parlait à table tout à l'heure, qu'ils ont la concurrence de la Chine. Est-ce la baisse des impôts qui est dans leur intérêt actuellement? Et il faudrait qu'ils aient une réflexion sérieuse sur les défis qu'ils ont à affronter, et à mon avis, l'idée de baisser les impôts pour qu'ils puissent faire tout ce qu'ils font avec le flux qu'ils ont, ça ne me semble pas du tout sérieux. Ça donne l'impression d'une sorte de fuite en avant, beaucoup plus que d'une stratégie sérieuse de combat. Donc, personnellement, je pense que même si ce n'était pas un très bon président capitaliste, je pense que Biden était un combattant plus sérieux que Trump du point de vue du capital. Ça, c'est un point de vue. Hein. Bon, bref.
I dreamed I saw Joe Hill last night. sont plus dans... Enfin,
un peu plus fort parce qu'on...
Ouais, des questionnements qui seraient genre... qui se permettraient de peut-être approfondir un peu ce que tu as essayé de nous raconter déjà dans une première étape. Avec plusieurs points, et après essayer de reprendre un peu des luttes qui ont pu exister aux États-Unis. Du coup, j'ai des thèmes un peu que tu n'as pas trop abordé là, qui sont par exemple la question de la drogue aux États-Unis, où il y a une épidémie un peu monstrueuse qui tue énormément de personnes, qui rejoint un peu la question démographique sur la question de l'immigration, et aussi la question de la mise en place, enfin en tout cas du refus de l'avortement, qui a quelque chose de spécifique aussi aux États-Unis. Dans une autre thématique, il y avait la question de, comment dire, du fait que aux États-Unis, il y a énormément de gens qui sont rattachés à l'armée, énormément de gens qui vont à l'armée et qui, ça leur permet de payer leurs études, ça leur permet d'avoir quelque chose de base, un revenu de base, une première façon de pouvoir aborder la vie, le travail. De pouvoir accéder en fait à la propriété, aux études, à la formation, quelque chose de très spécifique. Disons que si en Europe c'est l'État providence, aux États-Unis c'est le fait que tu vas passer par l'armée pour être formé et pour avoir ce truc-là. Et une autre thématique encore, c'était la question de la crise financière ou de l'endettement en fait aux États-Unis, qui a un taux d'endettement particulièrement élevé actuellement. Qui est très spécifique. Du coup, là, je pose un peu quatre crises structurelles aux États-Unis. Et après, c'est juste des questions. C'est pour essayer de creuser un peu ce sujet des États-Unis, tu vois, qui est, il me semble, un pays où il y a des problématiques assez profondes et potentiellement une crise sociale très forte qui va émerger. La question de... des Black Lives Matter, tu vois, enfin de ce mouvement, pas de l'organisation, mais du mouvement qu'il y a eu, où il y a eu tous les États-Unis à un moment donné qui sont vraiment mis en jeu, en lutte, beaucoup, enfin sur beaucoup de villes, sur beaucoup de territoires, qui a eu un écho. Combien même ça n'a pas fait des petits, ça n'a pas permis à une véritable organisation de pouvoir naître, mais quand même après ça, on a eu des énormes grèves. Dans l'automobile, et pas que dans l'automobile en fait. Après le Covid, c'est 4 millions de personnes qui démissionnent de leur boulot. C'est des luttes dans l'hôtellerie, c'est des luttes chez UPS, c'est des luttes du coup sur l'automobile. Et en fait, il y a énormément de luttes qui sont faites. Et comment du coup s'organisent du coup les syndicats aux États-Unis ? Enfin, moi de ce que je comprends, c'est des syndicats très co-gestionnaires, très problématiques. Sur lequel il n'y a pas trop de perspectives, mais il y a eu quand même des luttes assez massives de milliers de personnes sur des territoires, sur des états différents. Et du coup, ça, on n'en a pas trop parlé, et je me demandais du coup, tout ce truc que je viens de raconter, si tu arriverais à le rebalancer un peu.
Ouais, je pense qu'après ce que tu viens de dire, et puis on avait déjà des échos, on peut dire quand même que Donald Trump est un très très bon président. Il fait quand même le job. Je veux dire, c'est la quintessence de ce que peut être un homme de pouvoir.
Ben non, c'est pas
un président. Un président, quoi.
C'est la sacrée.
Il est extraordinaire comme président. Enfin, d'un point de vue anarchiste, il sert quand même la soupe à tous ceux qui peuvent critiquer un régime démocratique représentatif. Il montre ce que peut faire quelqu'un qui a le pouvoir, qui lui a été donné par les élections représentatives, par des élections. Il montre ce qu'on peut faire, quoi. On peut faire énormément de choses, tout ce qu'on veut. C'est comme un roman, en fait. Quand tu disais que le mouvement qui était parallèle au 14 juin, dans les petites villes, dans les petites communes, disait « No Kings », mais en fait, c'est une contradiction parce qu'en fait, Obama, Clinton, Bush, tous ces gens-là, tous ceux qui ont précédé, là-bas comme ici, bah, en fait, lui, il dit très haut, il est très fier de sa connerie, mais en fait, il dit très haut ce que les autres faisaient déjà très bas. Donc, d'un point de vue anarchiste, moi, je trouve que ce gars-là fait le job. Il sert la soupe à la critique de ce que peut être un régime présidentiel. Un régime démocratique. représentatif. C'est pas très clair dans ton intervention. Il n'y a pas une véritable critique de ce que peut être un régime démocratique représentatif. On entend souvent que Trump c'est un mauvais président. Moi je dis c'est un très très bon président. C'est donc une critique pour moi.
Alors, vas-y.
Comment ?
Vas-y, réponds.
Je vois le sens de ce que tu dis. Comme c'est souvent le cas, ce qui fait réagir dans l'histoire, c'est pas parce que sur le fond c'est différent, c'est parce que c'est quelqu'un qui c'est tellement énorme que les gens réagissent. Robespierre a dit que c'est pas tel ou tel acte de Louis XVI qui est critiquable, c'est le fait qu'il soit roi. Il doit pas être là. On va pas pinailler sur les détails. Le pouvoir qu'il a, il devrait pas l'avoir, c'est tout. Donc en ça, c'est une critique qui va au fond des choses. Sauf que c'est pas ça qui a déclenché la Révolution française. C'est pas ce principe, c'est les circonstances. Donc effectivement, on peut dire que ce régime n'est pas légitime. Mais là, on a des actes particuliers qui font apparaître la nature du régime. Maintenant, si tu veux mon avis personnel, moi, ce que je redoute quelque part, c'est que les gens finissent par élire les démocrates en novembre 2026 et à nouveau un président démocrate et en disant « Ouf, enfin, retour à la normale, on peut revenir à une vie raisonnable et oublier le cauchemar, et voilà. » Et c'est aussi vraisemblable que la continuation du régime de Trump, peut-être plus vraisemblable. Et c'est pas de ça que je rêve.
Mais tu...
Et sur ce que disait le copain ?
Question ici. À ce qu'il a dit lui, maintenant, il faut revenir à ce que...
La question de Diego.
Oui, c'est lui. La drogue,
rappelle-les.
Oui, la thématique, c'est la drogue.
L'IVG, l'armée.
La question de l'IVG, l'armée et l'endettement des États-Unis sont pour moi des crises un peu fondamentales en ce moment aux États-Unis. Ce que tu dis au début, tu sais... Enfin, il faut aussi parler matériellement de comment est-ce que se situe l'État à l'heure actuelle.
Plus fort, en fait, plus fort, on n'entend rien.
L'État actuel aux États-Unis, en fait, a des crises fondamentales, enfin des crises structurelles, et du coup, il faut aussi pouvoir en parler pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que les capitalistes agissent de telle façon. Et ces crises-là ne sont pas anodines. Et je voulais juste avoir ton avis sur ces crises-là, que sont la question de la dette, la question de la démographie, et de la question du coup de quoi ce rapport à l'armée à un moment donné où Trump, d'ailleurs les gens qui l'élisent refusent d'aller à la guerre, et pourtant Trump ne fait que proposer la guerre économique pour le moment, mais en fait finalement en Iran ils ont envoyé des bombardiers, ils testent la population pour savoir s'ils peuvent encore une fois les envoyer à la guerre, et en même temps il y a des luttes sociales qui existent, et du coup il y a eu des grandes grèves après le Covid. Et il y a la question de Black Lives Matter, avec une critique au sein du pays sur des questions de couleur de peau, de racisme, et de comment s'est construit le pays, quoi. Et y a un moment un peu crucial dans ce qui se passe aux États-Unis, de crises qui s'accumulent. Est-ce que, en fait, les États-Unis ne sont pas potentiellement au bord de la révolution ? Ils ne sont pas au bord d'une crise qui pourrait avoir une perspective révolutionnaire, dans le sens où ce qui était l'idéal américain s'effondre là actuellement.
J'avais l'intention d'y retourner. Ça fait quelques années que j'ai reporté mon voyage. Je pense y aller en septembre. Je n'ai pas l'impression je pense que avec Black Lives Matter, je pense que ça c'est retombé. Je dirais que dans l'ensemble, malgré tout, le racisme qui pèse une tonne dans l'histoire américaine, est moins présent aujourd'hui qu'avant. Difficile à dire si Black Lives Matter a aidé à faire baisser ce poids ou pas. La question de l'avortement, ça je ne me prononce pas. Il y a des tas de questions qui, à mon avis, ça continue, ça ne disparaît pas sans que ça soit brûlant. Là, la question des guerres est une question sensible parce que j'ai l'impression que sans le dire ouvertement, une partie de ce qu'on appelait le petit peuple qui s'est mobilisé dans plusieurs guerres, plutôt des échecs, des guerres, n'en veut plus, même si on met son point d'honneur à dire qu'on a été à l'armée, que... J'avais un chiffre là de... Il y a près de 16 millions d'anciens combattants aux États-Unis. Même si on fait la différence en proportion par rapport à la population française, ça ferait 3 millions, quelque chose comme 3 millions en France. Hein. C'est pas rien. Hein. Et beaucoup remontent à la guerre du Vietnam, donc c'est les personnes âgées maintenant. Mais à nouveau, avec la guerre contre le terrorisme de Bush, ça a créé, ça fait beaucoup de gens, en cas d'invalidité, de gens traumatisés, etc. Et il y a beaucoup de gens qui n'en veulent plus. Une partie de la base MAGA, de Trump, ils ne veulent plus de guerre, hein, ils ne veulent plus d'aventure à l'étranger. Et quand ils préparaient les frappes contre l'Iran, il y avait des soutiens auparavant indéfectibles qui ont dit non, tout sauf ça. On a vu ce que ça donne. Ça fait une série de guerres. Il faut dire que avec la guerre de Corée début des années 50, ils n'ont pas eu l'impression d'un échec net, pas de victoire non plus, mais depuis, toutes les guerres, c'est des échecs, plus ou moins pour les États-Unis. Psychologiquement, ça fait que depuis 1945, être soldat, c'est plus du tout la même chose. Donc, y a des, en plus, la médecine et les moyens d'évacuation des blessés, tout ça s'est amélioré. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de survivants traumatisés en proportion par rapport à... Moi, j'ai un parent, une famille, qui est décédé dans la Deuxième Guerre mondiale, non pas d'une blessure, mais juste d'une infection, de rien du tout, qui a été mal soignée. Les gens mouraient de rien. Aujourd'hui, des gens blessés gravement, ils survivent 20 ans, 30 ans. Le pays est rempli de gens comme ça. Ça fait, quand j'ai dit les anciens combattants, ça fait plus de 6% de la population adulte aux États-Unis. Donc, ça fait un poids. Et d'ailleurs, toute l'ambiance qu'on pourrait dire, qu'on juge réac aux États-Unis, faut voir l'effet que ça fait. Et avec la destruction de tous les filets de sécurité économique qu'il y avait, l'armée, c'était une des issues possibles pour les gens, surtout dans les régions rurales ou les régions minières. Et la protection sociale pour l'ancien combattant et sa famille reste considérable. Et c'est tout un réseau d'hôpitaux et c'est des services que les autres Américains n'ont pas, hein, sauf si on a des moyens. Donc,
ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassil, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.